Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du lundi 28 juillet 2014. Et nos auditeurs sont gâtés ce soir puisqu'ils ont droit à une équipe au complet avec Jean-Pierre, Michel et Robert en duplex. Ben, on a beaucoup à dire et à faire puisqu'on a été absent les deux derniers lundis, donc je ne veux pas dire qu'on va reprendre l'actualité sur trois semaines. Mais enfin, beaucoup d'événements, effectivement, on va être obligé de les embrasser comme ça sur une période assez longue. C'est le cas, bien sûr, sujet premier international des massacres, des bombardements à Gaza avec l'affrontement avec l'armée israélienne. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Au niveau international, aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU appelait et demandait un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Évidemment, du point de vue israélien, on n'a pas accepté cela en l'état. Si on revient un petit peu, donc on peut se demander pourquoi le Hamas à Gaza a décidé de déclencher cette guerre, je sais pas, mais enfin, ces attaques par des roquettes il y a trois semaines, sachant que forcément ça allait engendrer une répression. Alors, l'analyse géopolitique est un peu compliquée. Est-ce que c'est tout simplement parce qu'il compte créer l'événement mondial et l'émotion qui s'ensuit et que pour eux c'est une manière d'exister face aux problèmes dans lesquels ils sont pris, à savoir le renversement en Égypte qui fait que leurs alliés d'un temps ne sont plus du tout au pouvoir, les frères musulmans, et donc ils se retrouvent isolés de ce côté-là. D'un autre côté, il y avait cet accord qu'ils venaient de formaliser et qui tient toujours avec le Fatah, et qui a l'heure de déplaire au plus haut point aux Israéliens qui l'ont fait savoir. Il semble aussi qu'ils ont réussi pendant tous ces mois passés à se reconstituer un petit arsenal, sans doute pas d'une très haute sophistication, mais suffisamment nombreux, puisqu'on parle de 2500 roquettes en trois semaines qui ont été envoyées, armes qui proviennent de pays amis, peut-être l'Égypte du temps où elle était sous la coupe de leurs amis, ou peut-être l'Iran, ou peut-être la Corée aussi du Nord. Bref, les roquettes qu'ils ont envoyées n'ont pas fait beaucoup de morts, mais elles ont engendré des réactions extrêmement violentes de la part d'Israël, qui a mobilisé, qui a envahi le territoire, qui balance de la terre, des airs et de la mer des munitions qui, elles, sont plus sophistiquées et qui font d'énormes dégâts dans les villes. Et en même temps, beaucoup de morts, on parle de plus de 1000 morts de leur côté. La nouveauté aussi, c'est qu'Israël paye le prix, cette fois de son engagement, avec une quarantaine de militaires israéliens morts. Et on peut penser que ça aussi, ça va peser dans la suite du conflit et dans l'arrêt du conflit, mais ça peut pas s'éterniser. C'est la première fois que les Israéliens ont autant de pertes, si on peut dire, dans ces affrontements. Et ça, ça va sûrement très mal passer en Israël. Bon, j'arrête là pour ce qui est de mes commentaires. Pour le moment, je laisse un petit peu la parole à Michel.
Oui, juste une petite chronologie lacunaire un peu de ce qui s'est passé. Au départ, c'est l'assassinat de trois jeunes adolescents israéliens dans les territoires occupés. Trois jeunes qui faisaient du stop sur une route qui est dévolue aux colons. Une voiture plaque d'immatriculation israélienne s'arrête et voilà, plus de nouvelles d'eux, on les retrouve morts. L'État israélien accuse d'office le Hamas d'être responsable donc de cet attentat, donc de ce crime sur ces trois jeunes adolescents. Et il entreprend donc d'arrêter de manière voilà, comme ça, totalement arbitraire, des centaines donc de membres du Hamas en Cisjordanie, hein, qui ont pour seul tort juste d'être politiquement membres de cette organisation. Et pour certains d'entre eux, non seulement ils ont été arrêtés, mais les gens ont été expulsés des maisons et les maisons ont sauté, hein, genre pratique israélienne très courante. Face à la multiplication donc de ces types d'opérations, le Hamas depuis Gaza, où il a son, si j'ose dire, son siège général, hein, menace ouvertement donc de représailles à Israël. Et donc on voit le tir de roquettes donc indiscriminé, mais des roquettes qui, rappelons-le, hein, il y a des centaines et des centaines de roquettes qui ont été tuées. Il n'y a eu officiellement aucun mort, si ce n'est une personne qui est morte d'une crise cardiaque. Donc dire effectivement que, mis à part effectivement, enfin c'est un feu d'artifice, j'ai envie de dire dangereux plus qu'autre chose, hein, ces tirs de roquettes. Donc il faut savoir un peu raison de garder, c'est-à-dire que on a voulu nous faire croire que la population israélienne était en danger, que la vie économique en Israël a été paralysée, loin de là, quoi. Et donc derrière, Israël a profité de cette occasion pour massivement bombarder Gaza. Et tu le disais, avant tout, le but politique, hein, de cet engagement militaire, c'était défaire l'alliance qui venait nouvellement d'être faite entre le Fatah et le Hamas en vue d'un gouvernement palestinien de coalition nationale, chose que Israël ne veut pas entendre parler. Elle pensait être arrivée donc à ses fins. Première phase, bombardement massif. Deuxième phase, intervention terrestre. Et là, le hic. Le hic, c'est tout de suite des dizaines de morts. On parle de 43 morts à aujourd'hui. Et d'où effectivement un peu le retrait des forces israéliennes, d'autant plus que ce sont les forces d'élite, hein, les Golani qui ont été engagés, donc des forces aguerries, mais qui n'ont pas venu voir le coup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Effectivement, tu disais, en termes de logistique, certainement l'Égypte des frères musulmans a aidé le Hamas à s'armer en roquettes. Peut-être sont-elles d'origine nord-coréenne. Peut-être ont-elles été faites de manière artisanale dans la bande de Gaza. Toujours est-il que le Hezbollah, donc libanais, lui aussi a dépêché donc ses conseillers militaires et a appris donc au Hamas comment contrer l'offensive israélienne. Chose qu'elle avait déjà réussi, hein, il y a quelques années au Liban Sud, hein, où les Israéliens avaient subi un échec cuisant d'un point de vue militaire. Donc on est dans cette opération-là. Aujourd'hui, l'état-major israélien voit bien que l'opération terrestre, elle peut pas la pousser plus en avant. Apparemment, le Hamas les attend. Le Hamas a eu le temps de creuser des tunnels souterrains à tout va, de mettre en place des postes d'observation, les attend venir. C'est aussi armé en mortier, donc facilement déplaçable. Donc aujourd'hui encore, apparemment, 4 Israéliens sont morts suite à un tir de mortier, chose nouvelle, hein, pour les Israéliens. Et on voit bien que autant ils ont la domination totale dans le ciel, drones, hélicoptères, aviation, autant sur le terrain, la configuration même de la bande de Gaza, ultra urbanisée, ne leur permet pas de mener leur mission au bout. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle le Hamas ne veut pas de trêve pour l'instant, car il a déjà commencé à infliger un premier revers, hein, d'un point de vue stratégique aux Israéliens. Donc il se dit, à ce rythme-là, s'ils ont la bêtise de vouloir continuer à foncer plus en avant au sein de la bande de Gaza, ils vont effectivement le sentir. D'où effectivement l'impact aussi, ça après sera l'impact sur les opinions publiques respectives, à savoir quel sera le coût pour les Israéliens de cette opération sur Gaza, quel est le coût du Hamas, même si une partie de la bande de Gaza est détruite, mais s'ils en sortent un peu rehaussé, quel sera le coût symbolique pour le Hamas? Qu'est-ce que le Hamas a à perdre, de fait, hein? La guerre, elle est décrétée au quotidien, puisque la bande de Gaza, c'est de fait une prison à ciel ouvert. C'est une bande de territoire de 45 km sur 12 qui est sous embargo total, donc sous blocus. Donc c'est les Israéliens qui décident de laisser l'électricité, de l'eau, qui décident des sorties, des rentrées, et après tout se fait effectivement de manière clandestine par ces fameux tunnels, parce que sinon on est dans la configuration effectivement de camps d'internement, quoi. C'est pas autre chose.
Ouais. Du point de vue stratégique, tu penses que on a quand même un peu l'impression que c'est le Hamas aurait pu faire le dos rond après les événements du début dont tu as parlé. On a l'impression qu'ils ont voulu un peu cet affrontement, qu'ils ont décidé que pour eux c'était le moment de le faire, qu'ils étaient suffisamment équipés pour se lancer dans cette aventure, quoi. Non.
Est-ce qu'ils l'ont voulu, cet affrontement? Je suis pas sûr. L'histoire nous le dira, mais au vu des informations qu'on a, je suis pas sûr qu'au départ c'est eux qui le voulaient, cet affrontement. Toujours est-il qu'ils se sont depuis maintenant des années préparés à cet éventuel affrontement. Et une chose qu'ils ne pouvaient pas laisser faire, comme je l'ai dit précédemment, c'est qu'on continue donc à arrêter de manière arbitraire leurs sympathisants en Cisjordanie, qu'on détruise leur maison. Donc ils ont menacé une fois, deux fois, trois fois, et ils ont mis à exécution donc leur menace, à savoir les tirs de roquettes. Alors est-ce que c'est eux qui ont décidé? Je ne suis pas vraiment sûr. Toujours est-il qu'ils se sont préparés donc à recevoir les bombes, et qu'ils se sont préparés à recevoir surtout les forces terrestres israéliennes au sein de la bande de Gaza. Et donc c'est toute la difficulté aujourd'hui, voilà, pour la stratégie israélienne pour mener à bien leur opération. Il faut qu'ils rentrent plus en avant avec leurs hommes, et là ils se rendent compte effectivement que le prix humain sera très très lourd à payer, et d'où effectivement leur réticence, et d'où la démultiplication des bombardements par l'aviation israélienne.
Robert, tu veux sans doute aussi apporter ta contribution sur ce sujet.
Je voulais évoquer ce qui peut être, on va dire, l'outil juridique qui va aider les Palestiniens, même si la réponse n'est pas pour demain, mais il y a tant de décennies que les Palestiniens attendent et font les frais de cette situation. C'est le contenu, je voulais évoquer le contenu de la plainte contre Israël qui a été déposée devant la Cour pénale internationale par l'État de Palestine. Le ministre de la Justice du nouveau gouvernement d'unité nationale palestinien, hein, dont on vient de parler, que pour l'instant il résiste bien à la tentative israélienne de le détruire. Donc le ministre de ce gouvernement d'unité, ainsi que le procureur général de la Cour d'appel de Gaza, et qui se sont basés sur l'article 15.1 de la Cour, avant d'adresser leur plainte à la procureure de la CPI, qui s'appelle Madame Ben Souda. Ces informations sont données par l'avocat depuis longtemps des Palestiniens, qui est maître de verre, d'ailleurs un avocat lyonnais, et qui dont on pense qu'il a l'occasion aussi d'intervenir un peu partout. Depuis des années, donc il intervient aux côtés des Palestiniens. Donc la plainte a été déposée et cette plainte vise donc les crimes commis, c'est un peu les termes du contenu, les crimes commis par l'armée israélienne au cours des deux derniers mois et qui se poursuivent. Alors ces séries de crimes de guerre, alors ils énumèrent tous ces crimes dont on peut accuser à juste titre l'armée israélienne: le ciblage des civils, le nombre de morts considérable, destruction, vol de biens. Le crime même de colonisation et d'apartheid, ça figure forcément. Ce pays s'est beaucoup occupé d'Afrique. La violation des règles permettant de bénéficier de procès équitables, tout ça. La recevabilité de cette plainte auprès de la CPI est établie par une jurisprudence, donc elle n'est pas contestable, et surtout par l'accès de la Palestine à la qualité d'État observateur à l'ONU. Et donc on précise qu'en raison d'une occupation militaire continue, d'un blocus et d'agression armée, la Palestine n'est pas en mesure d'exercer son pouvoir judiciaire, d'où cet appel à la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête. Enfin, se termine par c'est l'avocat de Vert qui le souligne, qu'il n'est pas possible, c'est un jugement sur le fond, qu'il n'est pas possible de renvoyer dos à dos les résistants qui ont recours à la légitime défense et dont les victimes, une quarantaine, voilà, victimes entre guillemets, hein, il parle uniquement des Israéliens, sont pour la quasi-totalité des soldats de l'armée d'occupation à l'intérieur du territoire envahi par Israël, et l'armée israélienne qui a fait plus de, à l'époque, 800 morts quand ils ont déposé la plainte. On sait maintenant qu'on est à près de 1100 morts. Voilà, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors, on peut toujours non pas ironiser, ce serait de mauvais goût et surtout pas de notre part, mais sur le fait que quand est-ce que cette plainte... il n'existe pas un système de référé qui permettrait d'accélérer la prise en compte d'une plainte devant la Cour pénale internationale. Mais néanmoins, comme on l'a dit, c'est un coup de plus porté à l'État colonial israélien dans sa guerre de destruction des perspectives d'État palestinien.
Voilà, on va peut-être en rester là ce soir sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de, on a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et qui méritent qu'on s'y arrête. Il y a dans l'actualité chaude, il y a la Libye où autour de Tripoli et de Benghazi, il y a des affrontements sévères entre l'armée légaliste entre guillemets qui tente de reprendre le dessus sur les milices du islamiste. Issus donc de la disparition de Kadhafi, qui ont repris pied depuis ce moment-là et qui se sont appropriés des secteurs. Entre autres, l'aéroport de Tripoli est un enjeu important et aujourd'hui, il y aurait eu une centaine de morts dans ces affrontements. On note au passage que si l'armée légaliste réapparaît et affronte ces entités qui sont pour elle des négations de son autorité, c'est peut-être aussi parce qu'elle reçoit une aide à la fois morale et psychologique des Occidentaux qui les poussent à ça, et aussi peut-être logistique de l'Égypte qui aurait fourni des avions pour aider à ce combat contre les milices. Voilà donc une situation là aussi très instable. Les Américains ont évacué, les Français ont reçu l'ordre d'évacuer, les diplomates ne sont pas du tout rassurés sur la quiétude qui va régner dans les jours qui viennent dans ces grandes villes.
Oui, là aussi, la situation est de plus en plus confuse. Donc, le général Khalifa Haftar, qui est à la tête de cette armée dite nationale légaliste, mais qui s'est autoproclamé finalement général de cette armée légaliste, n'oublions pas que après la chute de Kadhafi, tout reposait sur un équilibre fragile de différentes milices de Zimtane, qui de Misrata, qui du Fezzan ou de Benghazi, en vue du partage, si j'ose dire, du gâteau libyen. Donc il y avait une forme de statu quo et d'acceptation donc des uns et des autres en vue de la formation donc d'une armée qui aurait le consentement de toutes les milices. Or là, on voit arriver donc le général Khalifa Haftar, de toute évidence logistiquement aidé par l'Égypte, sachant que l'Égypte, l'armée égyptienne est sponsorisée par les États-Unis. On peut se poser légitimement la question de savoir si les États-Unis ne sont pas derrière, d'autant plus que ce même général Khalifa Haftar a longuement séjourné aux États-Unis, même si officiellement le département d'État américain s'en démarque, il n'y est pour rien derrière, mais bon, on se pose la question, il sort de nulle part, et il est autoproclamé donc général de cette armée d'unité nationale. Il conteste les dernières élections du printemps dernier à Tripoli et donc il veut renverser donc le Parlement et mettre en place donc voilà l'unité du pays. Mais bon, la contestation est très forte et le chaos encore plus. Et donc aujourd'hui, on voit bien que derrière cette offensive se cachent aussi des intérêts qui semblent être ceux des chancelleries occidentales qui ont vite fait d'évacuer leurs ressortissants et leur ambassade ces derniers jours, notamment à Tripoli. Et devant donc cette situation où on perd tout contrôle, où de toute évidence les troupes dites légalistes n'ont pas pouvoir, n'ont pas les moyens, n'ont pas les capacités de reprendre tout le pays, la Libye, même au temps de Kadhafi qui reposait sur un système tribal, même Kadhafi, il n'avait pas cassé ce système-là, donc il essayait d'amadouer toutes les tribus à sa cause. Et bien aujourd'hui, ce lien donc d'équilibre est rompu et chacun défend ses intérêts premiers. On a l'aéroport qui est tenu par les Zintan, qui sont originaires du sud du sud-ouest de Tripoli et qui savent effectivement la manne que représente cet aéroport et ils sont pas prêts à le céder, même s'ils sont alliés du général Haftar, ils sont pas prêts à lui laisser en l'état. Donc c'est un tout un ensemble de comment on dirait-je d'associations ou
d'intérêts divergents
mais de fait tout ça reste très très bancal et on voit bien que le démembrement de ce pays qu'ont initié les Occidentaux, à commencer par la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis il y a 3 ans, continue donc à faire son œuvre. Et c'est pas donc avec cette offensive tout azimut qu'on va régler la situation des Libyens.
Ce qu'on ressent aussi très bien, c'est que du côté occidentaux, il y a une ferme, un souhait de voir un peu de stabilité s'instaurer au Moyen-Orient.
Il faut que les affaires reprennent.
Oui, les affaires reprennent et puis que les djihadistes arrêtent de progresser.
Et que les djihadistes. Mais bon, dans le même temps, qui sème un peu cet islam islam politique, ce sont les Occidentaux. Donc, à un moment, il y a aussi cette fierté arabe. Alors, elle transparaissait il y a 30 ans par le nationalisme arabe. Aujourd'hui, c'est par le biais de l'islam politique qui veut maintenir sa souveraineté, qui ne veut pas la partager, qui ne veut pas se voir exploiter par les Occidentaux. Donc, faut-il s'en étonner? Je ne pense pas.
Romain?
J'évoquais tout à l'heure le rôle de cette organisation post-coloniale qu'on appelle la Cour pénale internationale, qui réclame en vain la livraison du fils Kadhafi et qui ne peut pas l'obtenir. Et on sait que, en fait, dans la coulisse, ça n'arrangerait personne que le fils Kadhafi se retrouve à La Haye devant des juges où il pourrait effectivement mettre en cause un certain nombre de dirigeants, dont notre ancien président Sarkozy, dans cette destruction du pays et puis l'assassinat, puisqu'il y a eu un assassinat. Kadhafi, quand il a été achevé, n'était pas en état de se défendre et donc c'est un assassinat et tout ça, ça doit faire l'objet d'une procès, ça devrait faire l'objet d'un débat à la Cour européenne et aussi bien qu'à la Cour pénale internationale.
Mmh. Alors, autre front où les choses, les affrontements ne sont pas loin d'être terminés, c'est la mise en place du fameux califat en Irak qui déborde maintenant sur la Syrie. Il l'avait annoncé d'ailleurs, et du coup, ça crée là aussi des affrontements nouveaux, puisque on va presque voir l'armée illégale syrienne et l'opposition syrienne s'associer contre le 2IL. L'armée radicale du califat qui s'est un peu instaurée dans une partie de l'Irak avec la visée annoncée de prendre Bagdad. C'est pas encore fait, mais il semble qu'ils reçoivent de nombreux appuis. Et le Baghdadi donc maintient, lui, cette nouvelle structure qu'il estime être celle de l'avenir, quoi. Alors, prend-il ses rêves pour des réalités?
Alors, l'avenir de l'IRA, mais bon, quand on examine d'un peu plus près la montée en puissance de maintenant ce qu'on appelle l'État islamique, hein, le califat ressuscité, on se rend compte qu'il couvre avant tout des territoires où la population donc sunnite était prépondérante, que c'est pas le cas de Bagdad, hein. Pour plus de moitié de la population à Bagdad, elle est chiite. Donc, ils prennent Fallujah, Mossoul, on l'entend. Bagdad, c'est une autre histoire. Ensuite, est-ce que l'Iran, grand allié des chiites irakiens, le permettra? Je ne le pense pas. Et même les États-Unis voient effectivement là le danger. C'est-à-dire, quelque part, c'est un monstre qu'ils ont créé, hein, ou qu'ils ont contribué à créer, et qui aujourd'hui, leur échappe. Alors, tant qu'il y a de l'argent, tant qu'il y a une direction, tant que les combattants s'auto-alimentent, parce qu'ils s'auto-alimentent aussi par tout le fanatisme islamiste hein, des quatre coins du monde, qui on a parlé de Tchétchènes, de Français, de Belges, des musulmans de partout arrivés, et donc vouloir vivre dans cet état en tant que musulman, dans ce grand califat. Mais on voit bien que à plus ou moins long terme, c'est un état qui peut pas voir le jour, qui peut pas se mettre en place. Et on verra maintenant quelle réponse les Occidentaux vont apporter. Alors, est-ce que ce sera une réponse militaire? On parlait effectivement de l'envoi de plusieurs centaines de conseillers militaires à Bagdad pour aider le gouvernement de Maliki à désigner donc des cibles dans le pays sunnite, mais dans le même temps c'est tout le souci, c'est-à-dire en intervenant directement, est-ce qu'ils vont faire le travail pour le compte des chiites irakiens et avec l'aval aussi là de Téhéran. Donc ils voient bien effectivement le comment ils sont pris en piège d'un point de vue stratégique dans cette histoire là. On verra pour la Syrie aussi l'évolution sur le terrain, mais pour l'instant en Syrie on en est au statu quo, à savoir que les troupes loyales à Bachar al-Assad ne régressent pas. Ils ont perdu, on parle d'un bataillon dans le nord, mais ils ont récupéré dans le centre du pays une raffinerie, et que globalement à ce rythme-là, donc là aussi en Syrie le conflit peut encore durer assez longtemps.
Donc je pense que le califat ne va pas s'étendre vers la Jordanie, vers l'Arabie Saoudite. Pour le moment, ils devraient rester contenus dans cette zone où ils sont, quoi. Un pied en Irak, un pied en Syrie.
Oui, alors on parle de quoi là? On parle effectivement de ce califat qui est à cheval sur deux états pour l'instant, on est d'accord, sur la Syrie et l'Irak. La Jordanie, c'est une autre histoire. La Jordanie a signé une coopération militaire avec les États-Unis, comme l'Arabie Saoudite. Donc là, c'est chasse gardée. Là, vous allez voir, hein, le califat, il risque pas de se propager bien longtemps. Donc, on voit bien, effectivement, à quoi il sert. Il sert à affaiblir toujours ces États. On a affaibli durablement l'Irak. On est en train d'affaiblir durablement la Syrie. Et bon, s'il est dans l'intérêt des Occidentaux d'affaiblir la Jordanie, ils le feront. Mais pour l'instant, voilà, c'est un État tampon, la Jordanie, avec un bon roi qui écoute bien ce qu'on lui dit. Donc il n'y a pas de raison que globalement les choses changent, et on ne permettra pas effectivement la déstabilisation du roi hachémite.
Robert, tu voulais là-dessus ou sur un autre sujet?
Non, je n'ai pas de sujet d'autre précis. Bah, bon, je pourrais parler de l'Ukraine, mais bah, l'Ukraine,
oui, un petit peu,
on en parle
les choses
tout
évoluent.
Le temps, et puis,
les choses évoluent
rien de
quand
très,
même.
Très nouveau.
Cette reprise en main, semble-t-il, quand même, d'une partie du territoire. Chaque jour, l'armée légaliste reprend une ville, un morceau, même s'il y a encore des combats, puisqu'on nous dit que les deux tiers des territoires ont été reconquis à coups de canon un peu aveugle. On ne sait pas trop ce qui se passe du côté de la population. Hein. C'est sans doute pas à la même échelle qu'à Gaza, mais c'est quand même les mêmes méthodes, quoi. Alors, il y a l'histoire de l'avion crashé. Bon, ben, là, on sait qu'il est en pleine zone de guerre et que les observateurs qui devraient faire les analyses ne peuvent pas accéder à la zone parce que c'est trop dangereux pour eux, quoi. Et ben, un affrontement dans lequel on ne sait pas, on n'arrive pas à savoir exactement quel est le rôle que joue la Russie. On voit pas bien comment ces autonomistes s'auto-alimenteraient sans avoir cette frontière particulièrement poreuse d'où tout ce dont ils ont besoin pour mener leur action doit venir, non?
Mais bien sûr, sans l'aide logistique des Russes, l'aide bien sûr qui n'est pas officielle, hein. Donc la République du Donbass ne peut pas survivre, donc ce qu'on appelle les séparatistes pro-russes ne peuvent pas combattre bien longtemps face aux troupes ukrainiennes, même si en face hein, on parle d'avancer, mais d'avancer avec la méthode dure, c'est-à-dire si les troupes gouvernementales ont repris du terrain, c'est en pilonnant massivement aussi la région de Slaviansk. Maintenant, ils sont aux portes de Donetsk. Donc, le coup politique va être désastreux pour Porochenko. C'est-à-dire, on reconquiert ce territoire. Oh, combien on le reconquiert ? Mais qu'est-ce qu'on a ? On a une population qui a été bombardée. Qui a été bombardée d'autant plus par des gens qui étaient là aux premières lignes et qui sont pour la plupart originaires donc, d'Ukraine de l'Ouest. Donc, quelque part, une forme de haine réciproque. Donc, le coût, déjà, est trop élevé pour l'Ukraine. Ces territoires reconquis ou pas, le coût risque d'être fatal. Et après, il va se jouer d'un point de vue économique, à savoir la capacité de coercition de la Russie. Vu qu'on s'est engagé aux côtés du gouvernement central ukrainien, nous occidentaux, hein, nous, on peut plus maintenant faire marche arrière, donc on sera obligé de supporter l'économie ukrainienne qui est vacillante à bout de bras, donc il va falloir rentrer d'argent dans cette économie-là pour éviter qu'elle s'écroule. Déjà, il n'y a pas d'argent pour l'armée. On a des tas de récits, effectivement, de militaires qui désertent juste parce qu'ils n'ont même pas la popote. D'où la situation, quelle que soit l'évolution militaire sur le terrain, qui est déjà, d'un point de vue politique, désastreuse. Désastreuse pour l'avenir de l'Ukraine en tant que pays souverain et dans l'état actuel, et désastreux pour ses relations avec son voisin, hein, qui est comme son premier partenaire économique, qui est la Russie, et tout ça donc pour faire le jeu donc des intérêts occidentaux dans la région.
Donc aujourd'hui, on voit pas de solution. La scission n'en est pas une, d'autant plus que cette partie est la partie industrielle, minière.
Rappelons effectivement que par sécessionnistes, c'est surtout Kiev qu'ils appellent terroristes sécessionnistes, etc., qu'avant tout, les revendications des oblasts de Lugansk, Donetsk, c'est la fédéralisation. Ils n'ont pas demandé à rejoindre la Russie. Ils ont demandé effectivement à avoir un statut d'autonomie, donc qui soit large au sein effectivement de la Fédération d'Ukraine, chose que Kiev et Washington ne veulent pas entendre parler. On a vu hein, en d'autres temps comment on pouvait arracher une partie du territoire à la Serbie, la donner à la population albanaise majoritaire, je parle là du Kosovo, hein, en 99. Donc il y a eu des précédents, mais là non. Là, de toute évidence, on préfère la politique du pire, on préfère effectivement tu évoquais effectivement que Gaza, ça n'a rien à voir avec Gaza, c'est de la population est nettement moins touchée, mais il y a quand même des centaines de civils qui ont été tués dans ces régions-là. À ce que je sache, c'est l'armée régulière qui attaque et qui attaque à l'arme lourde, donc des zones urbanisées. Et que au jour d'aujourd'hui, on parle quand même de plus de 150 000 donc ressortis de sang de ces deux régions qui ont passé la frontière pour se réfugier en Russie. Ce n'est pas rien non plus, je veux dire, ça a quand même des conséquences. Voilà, le coup politique va être désastreux.
Voilà, on arrête là pour la partie internationale, Robert, ou tu as encore un sujet?
Non, je n'avais pas d'autres sujets.
Allez, on fait une courte pause musicale avec un extrait. Bon, bien sûr, 25 juillet, hein, c'est passé. Le 31 juillet, c'est l'assassinat. 25 juillet, c'était le discours de Jaurès à Lyon, à Metz. Le 31 juillet, ce sera son assassinat. On ne peut pas ne pas y penser un siècle après, quasiment jour pour jour. Évocation avec la chanson de Brel, interprétée là par Jean-Marc Le Bihan en public.
Il ne s'est épuisé à 15 ans, il ne finissait en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre la sainte et les grands-mères? Ils étaient vieux avant que d'être. 15 ans par jour, le corps en l'air, le sous-visage, un teint de cendre. Où notre monsieur, où notre bon mère,
Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu, lorsque l'on va aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Une comète, une monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Alors, enregistrement techniquement mauvais, faut bien le dire, mais c'est un document intéressant. Et puis l'hommage à Jaurès, ça s'accommode bien d'un peu de déficience technique. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du 28 juillet 2014. Et nous abordons maintenant la rubrique... nationale, qui est moins riche, moins dense, même s'il y a des choses importantes, que l'international. Robert, je te donne la parole.
Le conflit qui est développé par le fait que le gouvernement ait approuvé l'accord qui est intervenu entre le MEDEF et syndicats, dont essentiellement la CFDT et Force ouvrière, à propos du statut précaire des intermittents, conduit effectivement un peu partout les intermittents à se mobiliser. Il y a une coordination nationale qui est la CIP, coordination des intermittents et précaires, et qui est appuyé par la CGT Spectacle notamment et d'autres organisations, et qui un peu partout à travers la France, au moment où se déroulent des festivals, eh bien intervient soit pour bloquer, soit pour déclencher des journées de grève, soit pour simplement expliquer ce qu'ils font. Ça dépend à la fois des gens qui sont disponibles pour ces interventions, et puis ça dépend aussi comment les assemblées, parce que chaque fois c'est pas centralisé naturellement à Paris tout ça, c'est chaque fois précédé d'assemblées sur place, et on l'a vu fonctionner comme ça à Avignon. Bon, Avignon effectivement a été un peu le phare de cette bataille, et les intermittents et les précaires effectivement étaient intéressés par mener cette bataille à Avignon, même si à Avignon effectivement c'était peut-être pas l'image la plus bourgeoise d'une culture qui quand même reste encore pour beaucoup, malgré ces éléments de démocratisation, reste quand même le fait de privilégier. Et on peut remarquer que les intermittents ne sont pas allés déranger les bourgeois à Orange, au corrigé d'Orange. Puis, par contre, ils ont un peu attaqué les amateurs de musique à Montpellier, un peu plus encore
Marseille.
D'autres amateurs de musique et de théâtre à Marseille, et puis beaucoup à Avignon, donc interpellation de la ministre. Bon, on aura l'occasion tout à l'heure, quand en faisant un petit compte rendu de ce qui s'est passé sur le plan culturel à Avignon, on reviendra là-dessus. Ils poursuivent, les intermittents poursuivent. Ils ont obtenu la promesse d'ouverture de discussion le 18 septembre. C'était ça aurait dû être fait plus tôt, et comme tout ce que dit tout le monde, c'est que on comprend pas pourquoi Hollande s'est précipité à signer cet accord intervenu le 22 mars dernier. Rien ne pressait, ça aurait pu attendre, et un peu plus d'intelligence politique lui aurait permis peut-être effectivement de faire que l'été de la culture se passe sans moins de soubresauts. Mais en fait, les intermittents posent au-delà d'eux-mêmes. Ils se défendent de vouloir mener une bataille corporatiste. Ils veulent que ce soit aussi la bataille de la précarisation de plus en plus grande de millions de travailleurs et de Français en France, mais pas seulement en France. C'est pas un problème essentiellement français, et que cette crise, cette austérité imposée, eh bien, ils veulent être aussi, eh bien, à leur manière et à juste titre, pour leur propre défense corporatiste, mais une ouverture vers cette mise en cause de l'austérité.
Voilà, si tous les riches de France se donnaient la main, vous savez qu'on a beaucoup de patriotes en France. 30 000 dossiers vont rapporter 1,8 milliard selon le ministre Sapin. Il s'agit du pognon qui avait été planqué en Suisse et qui revient face aux levées de secrets bancaires, aux accords internationaux. Donc ça fait toujours plaisir de mesurer comme ça le patriotisme des patrons français, des patrons et des riches, on va dire, d'une manière générale. Il y en a d'autres qui sont dans le collimateur. Pour une fois que les socialistes font un peu de socialisme, on va pas râler. Ce sont les 37 professions privilégiées qui ont des réglementations bien spécifiques et que un certain nombre de ministres, Montebourg en tête, veulent remettre en cause. Il s'agit des pharmaciens, des avoués, de toute une série de gens qui font des tarifications qui la rouvrent. On a vu des salaires de l'ordre de 15-20 000 euros par mois que rien ne justifie, sauf que c'est le vous et moi, le contribuable, qui paye quand il a besoin d'un avocat ou d'autre chose, ou même d'un médicament. Donc la bataille va être rude d'ici la fin de l'année là-dessus. On va voir si ce gouvernement a le courage d'affronter des lobbies bien particuliers de privilégiés. Et puis il y a les...
Un avocat confirmé qu'il est, Montebourg, il sait utiliser l'effet d'annonce. Et quand il se plante sur un dossier, il file vite sur un autre dossier. Mais on ne lui reprochera pas d'ouvrir celui dont il vient de donner le contenu.
Ouais. Alors, ils font un peu tout ça. Hein. Hollande aussi, là, il a eu un avion providentiel qui lui a permis de faire de la com pendant 5 jours. Ça fait oublier beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup moins reluisantes. Un mot aussi des collectivités locales qu'on accuse d'augmenter leurs dépenses. Et évidemment, dans la mesure où l'État n'arrête pas de diminuer ses dotations, les collectivités locales sont obligées de prendre en charge des choses qu'elles ne prenaient pas. 3,2% ces 3 dernières années d'augmentation par an. Ça veut dire pour les contribuables augmentation d'impôts, ça veut dire plus d'emprunts pour ces collectivités. Et puis puiser un peu dans leurs réserves, ça c'est pas forcément une mauvaise chose. Le chômage augmente en juin, 0,3%, c'est rien, vous allez me dire. Ben si, c'est 9400 personnes qui avaient un boulot et qui l'ont plus. Et c'est une augmentation moindre que celle du mois d'avant qui était de 25 000. Mais en tous les cas, la pente de la courbe ne s'infléchit absolument pas, malgré tous les grands discours qu'on nous tient. Voilà, Michel, t'as peut-être un sujet, il faudra qu'on reparle une fois de la SNCF, mais c'est peut-être pas ce soir. Robert, autre chose, ou on passe à notre rubrique culturelle?
Simplement peut-être une note d'humour, ou peut-être plus grave, c'est je pensais à... ceux qui vont travailleurs vont partir en vacances, qui ont un emploi et qui peut-être hélas pour eux le savent-ils ou l'apprendront-ils à leurs dépens, trouveront une lettre de licenciement dans leur boîte aux lettres. Ça s'est produit par le passé, c'est un scandale, mais dans la conjoncture des rapports de force actuels où La politique du gouvernement et de Hollande, c'est de dire, eh bien, c'est la politique de l'offre, eh bien, l'offre qui fait l'offre, eh bien, c'est les patrons. Et donc, les patrons, eh bien, ils peuvent mettre aussi dans les boîtes aux lettres des lettres de licenciement sans attendre forcément, surtout s'agissant de boîtes petites, moyennes, petites, sans attendre effectivement de passer par les fourches codines des comités d'établissement et des comités d'entreprise. Alors, on espérera que ça se produira pas, mais.
Courte pause musicale.
Si c'est pas à la rentrée des vacances, on sait que, tu viens de le dire, la courbe du chômage reste la même.
Courte pause musicale pour introduire la rubrique culturelle.
L'enfant gitan le long des terrasses, vent sa lavande, te fait la manche. Juillet en Avignon, ce festival, écoutez donc les comédiens, les saltimbanques, les poètes, ce sont souvent des gens honnêtes qui te font de la vie comme une fête.
Et voilà, donc Festival d'Avignon, tu y étais pour nous, tu as tout vu, raconte-nous.
Oui, j'ai tout vu, oui, enfin, j'en ai vu une partie, puisque effectivement, ça n'est pas donné de passer 3 semaines en Avignon. Bon, le lien est facile à faire avec tout ce qu'on vient de dire depuis 3 quarts d'heure, puisque eh bien on vient d'évoquer la lutte sociale déclenchée par les intermittents et qui veulent aussi aller au-delà de leurs propres problèmes personnels de corporatistes, et puis aussi la Palestine où il y a eu j'ai eu l'occasion de voir plusieurs manifestations pour conspuer l'attitude d'Israël et pour défendre la Palestine. Et j'avais gardé cette image très forte. C'était pas dans le cadre d'une manifestation, mais un après-midi où il y avait, beaucoup de gens connaissent la rue de la République, était plein de gens qui circulaient puisqu'elle était en zone piétonne, et on entendait Palestine, Palestine, Palestine. Alors tiens, qu'est-ce qui crie Palestine, Palestine? Et à un moment, on a vu arriver un groupe de jeunes gens, visiblement pour la plupart franco-maghrébins, même à pratiquement ça, mais jeunes, peut-être 15-20 ans, comme ça, comme si c'était un groupe de lycéens ou d'étudiants, de lycéens qui débarquaient. Ils avaient pas grand-chose, ils n'avaient pas de tracts à distribuer, ils avaient simplement un petit drapeau palestinien, et puis, comme ça, ils remontaient très... à la fois sans regard de haine ou de violence tout à fait justifiée, mais comme ça, qui remontait et à la surprise des gens, et bon, certains les ont applaudis au passage. C'était des petits moments comme ça qui existent. Pour revenir sur le contenu, on va dire bien culturel de ce festival. Bon, un mot important effectivement sur le IN, hein, c'est-à-dire que la façade officielle du festival. D'habitude j'en parle peu, et puis en général je vais à Avignon, c'est surtout pour le off qui n'est plus l'espace de contestation qu'il a pu être quand il est né à l'époque d'André Benedetto, c'est-à-dire maintenant il y a plusieurs décennies, mais qui reste quand même bon quelque chose de vivant et à part de ce que sont les institutions culturelles, quelle que soit la qualité de ce qu'elles présentent. Mais le IN cette année avait effectivement cette particularité d'avoir été mis en place par Olivier Py, qui est à la fois un comédien, un metteur en scène, un poète, un écrivain, on va dire qu'il cumule toutes les qualités qu'on pourrait souhaiter, effectivement, pour ce type de poste, d'autant que il est aussi un bon gestionnaire. Il l'avait prouvé quand il dirigeait le théâtre de l'Odéon à Paris, un très bon gestionnaire. Donc, on ne pourra pas dire, oui, d'accord, saltimbanque, très bien, un artiste, mais un artiste, ça ne regarde pas la dépense. Et contrairement à ce que, effectivement, certaines, les campagnes qui ont pu être menées, eh bien, Olivier Py a mis en place un festival très, très politique et poétique. Ce qui effectivement la poésie et la politique mêlées avec des spectacles internationaux et puis des grands spectacles avec toujours ce répertoire autour des bah, évidemment on pense toujours à Shakespeare qui est toujours bien présent mais il n'y a pas que Shakespeare qui était présent et lui-même depuis longtemps, Olivier Py a toujours pris position pour les intermittents. Et là, il a eu une position très, très redoutable. Et en fait, il s'est pas du tout, il a pas retourné sa veste. Et il a trouvé effectivement à un compromis en permanence avec les intermittents. Et ce qui, effectivement, a conduit à des, alors qu'il y avait, une volonté chez certains, peut-être minoritaire, puisqu'il y a eu un vote qui a montré qu'ils étaient minoritaires chez les intermittents de bloquer complètement le festival, et bien en fait il n'a pas été bloqué. Il y a eu trois jours de grève, partielle ou générale, bon, qui certes ont handicapé, bon, mais faut dire que la météo aussi y a mis du sien pour poser quelques petits problèmes à Olivier Py. Et d'ailleurs, lui-même, dans le propre spectacle, parce que tout en organisant, maîtrisant et suivant le festival, avait lui-même écrit, mis en scène, Orlando, une pièce dans une nouvelle salle qui est en banlieue, parce qu'il veut que le festival s'ouvre vers la banlieue et changer totalement le rapport social qui peu à peu faisait que ce festival IN d'Avignon était avant tout le lieu de des gens de culture, c'est-à-dire des classes moyennes qui ont déjà un niveau culturel, pas forcément beaucoup d'argent dans la poche, mais un niveau culturel que n'ont pas les milieux défavorisés, les banlieues prolétariennes, où qu'elles soient, hein, qu'elles soient à Avignon, ou qu'elles soient à Lyon, ou qu'elles soient à Paris. Donc, une réussite qui est reconnue par la presse dans cette entreprise d'Olivier Py. C'était donc pour lui un exercice très difficile qui lui était rendu difficile. Bon, il a même pas fait aucune concession à la ministre Filippetti qui pensait que il suffisait qu'elle dise quelques bonnes paroles pour que finalement ça tout le monde rentre dans le rang, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Et lui-même n'a pas couru au secours de Filippetti. Il faut espérer, mais ça personne ne le dit, qu'il ne soit pas demain victime de ce que d'autres ont connu. Et je pense notamment à Jean-Louis Barrault après mai 68, mais on n'en est pas là. Et je pense que Olivier Py ne subira pas un mauvais sort pour n'avoir pas été suffisamment en appui des pouvoirs publics. Mais il est vrai que le festival d'Avignon, il s'appuie pas sur le ministère de la Culture pour l'essentiel, puisque son financement, il est autant dû à la ville d'Avignon et à d'autres organismes, notamment y compris des organismes économiques. Sur cette première partie, alors si un chiffre encore, alors évidemment le cumul de la météo et puis effectivement des interventions grève et mouvement social a fait que le taux, ces fameux taux de fréquentation a un peu diminué Il était monté l'année dernière et les précédentes années autour de 96%. Là, il est retombé cette année à 90%. Et le déficit serait de 300 000 euros, ce qui n'est pas une catastrophe compte tenu de l'ampleur du budget. Et alors que des gens annonçaient déjà des chiffres apocalyptiques à l'issue de ce festival. Avant de parler peut-être du contenu et du off, peut-être faire quelques notes de musique si on a le temps. Nous, on n'a pas le temps. Hein.
Non, on a juste le temps de conclure en 3 minutes.
Pardon ?
Je veux dire, on a juste le temps de conclure en 3 minutes.
Je vais continuer sur
Mais
le...
Tu continueras une prochaine séquence la prochaine fois.
Le off, alors ben, là aussi, il a été quelque peu perturbé, bien que il a ouvert ses guichets en permanence, en expliquant néanmoins que sa solidarité dans la bataille des intermittents. Mais petit recul du nombre de cartes vendues, mais quand même on reste avec 28 000 représentations et 1300 spectacles. L'orientation du off, ça serait maintenant de faire que c'est 8 000, c'est comme ça que Greg Germain, le président, décrit tous ces gens des compagnies du off. C'est 8 000 personnes, 8 000 membres d'équipes artistiques venus de France et hors de France qui était là et qui donc, comme il le dit, et comme ça veut être la démarche du off dans les prochaines années, dire, eh bien voilà, c'est la France culturelle dans sa diversité, y compris dans ses petites villes, et voire même dans ses villages, où on voit dans des petites villes ou des villes de moyenne importance des équipes, des compagnies se monter, peu nombreuses, où souvent c'est des gens qui, peut-être pour certains, bénéficient encore d'un revenu, d'un salaire, et qui consacrent l'essentiel de leur salaire dans cette venue à Avignon qui coûte elle-même, peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros pour toute la durée du mois. On aura peut-être l'occasion, j'aurai l'occasion de revenir peut-être sur le contenu, c'est-à-dire passer en revue quelques-uns des spectacles qui montrent à la fois, je donnerai la diversité géographique de ces compagnies pour montrer que c'est une situation qui a son originalité et que d'ailleurs le off souhaiterait que le ministère de la culture, alors là c'est très débattu et très combattu aussi, que le ministère de la culture intervienne, non pas pour s'en occuper, mais simplement pour participer à sa finance, ne serait-ce que par son financement et tout ce que le ministère de la culture contrôle un peu partout. Dernier mot, et ce sera pour André Benedetto, je ne signalerai que lui, parce que ça fait juste 5 ans, d'ailleurs 14 juillet, ça faisait juste 5 ans qu'est décédé brutalement André Benedetto du Théâtre des Carmes, qui porte son nom d'ailleurs, Théâtre des Carmes, et qui a fait une soirée d'hommage. Ils ont appelé ça une soirée anniversaire, parce que ils voulaient pas une soirée d'un souvenir de tristesse, avec des rappels de la production qui un jour sera reconnue nationalement et internationalement comme une entreprise d'écriture théâtrale et poétique majeure.
On en reste là, donc ce journal se termine. J'ai pas d'autres informations culturelles à vous donner. Si Barjac finit jeudi, il y a donc Yvan Dautin, Anne Baquet, Lojo à voir dans les jours à venir. Il y a aussi le FDA Quartet qui sera jeudi, vendredi, samedi en mini-concert aux nuits de Fourvière à 19h. Il y a Jacques Mailloux qui chante un poète persan du 11e siècle, Omar Khayyam. C'est à la note bleue chez lui. Revoir Internet pour les détails et l'itinéraire. une soirée poétique et chaleureuse et musicale à déguster. Ce Canu Info sera rediffusé demain matin à 8h. On se quitte avec la musique de Tonio Gemem sur les paroles de Théophile Graine d'Avignon. Bonsoir et rendez-vous lundi prochain.
Et l'alcool fleurit les trottoirs d'amour qui vous tendent la main. Petit marlot de la bohème, mouton crémeux de la déveine, zonard d'un soir, cigale d'un été. On lira peu de la bartelasse qui rimaillait sans orthographe entre deux crampes de Mistral.